Et voici Amusez-vous sur RCF Nice Côte d'Azur, une émission de l'Académie Clémentine présentée par Nicole Sabag. Bonjour Nicole.
Bonjour José.
Aujourd'hui, vous nous dites que sous la mer, il y a un musée.
Voilà, oui, c'est pas sous les pavés la plage, c'est sous la mer un musée. Voilà, nous avons parlé la semaine dernière de l'exposition qui se déroule aux archives municipales à Cannes, qui est consacrée à Cannes et la mer. Nous avions reçu dans cette émission irrégulière qui avait prêté des objets pour cette exposition. Et l'idée nous est venue de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'est l'archéologie sous-marine. Et c'est pour ça que j'ai dit sous la mer un musée. Je pense qu'effectivement, un musée pas à ciel ouvert, à ciel fermé, mais sous la mer, il y a un musée, non?
On dit que c'est le plus grand musée du monde. Mais voilà. Ça, je reste quand même pas tout à fait convaincue.
Alors donc, je vous présente, vous êtes toujours journaliste à Nice Matin et vous êtes toujours directeur de fouilles sous-marines à Villefranche-sur-Mer. Et vous m'avez dit qu'une campagne de fouilles, là, va commencer.
Bon, ça y est, c'est parti depuis le début du mois d'octobre, qui va s'achever le 31 décembre. Et on va sans doute demander un renouvellement d'autorisation jusqu'au 30 avril 2010.
Bon, alors vous êtes archéologue sous-marin ou vous êtes journaliste avant?
C'est les deux à la fois. C'est à travers le boulot que j'ai pu rencontrer des gens particulièrement intéressants qui m'ont aidé justement à mettre un petit peu la tête sous l'eau. Voilà, c'est peut-être une connaissance des gens, un rapport avec les gens. Je pense que c'est d'abord ça.
Et avec la mer, j'imagine, non? Vous êtes né dans la région, je ne sais pas, on ne se connaît pas.
Non, plus que ça, je suis donc issu d'une vieille famille de pêcheurs professionnels, donc justement qui avait une petite branche à Cannes, et donc de prud'hommes, tout ça, mais c'était des gens qui travaillaient avec la mer, mais on ne pouvait pas dire qu'ils aimaient la mer, ils ne connaissaient pas la mer. C'est ce qu'il y a de malheureux, ils connaissaient la surface, ils ne savaient pas ce qui se passait dessous. Et évidemment, moi je fais partie d'une génération où on est né avec le masque sur la tête et la bouteille dans le dos, et donc évidemment, ils ont découvert à travers moi beaucoup de choses, voilà, un petit peu leur histoire à travers les objets qu'on a arriver à sauver des eaux.
Alors vous avez commencé à plonger tout jeune ou...
Moi j'ai fait comme tout le monde, on est passé par la chasse sous-marine, d'abord évidemment la pêche à ligne, la chasse sous-marine, et puis très vite j'ai choisi la plongée sous-marine, et j'ai eu la chance lors d'une de mes premières plongées de trouver un morceau d'amphore. Donc justement j'ai demandé, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui m'ont tout de suite aiguillé, qui m'ont dit non mais dès que tu trouves un objet il faut faire comme ça, et qui m'ont mis les démarches administratives, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle j'ai presque 30 ans de fouilles derrière moi. Je peux dire que j'ai fait ça officiellement, et j'ai monté une superbe école d'archéologie sous-marine à Villefranche.
Alors vous avez 30 ans de fouilles derrière vous, est-ce que vous avez trouvé des choses extraordinaires? Racontez-nous un petit peu, parce que c'est un monde je dis pas qu'il peut faire peur entre guillemets à certaines personnes, mais c'est vrai que c'est un monde qui était pas pour vous, mais qui peut être étranger, qui peut.
Qu'il faut dans chaque être humain, on a toujours l'espoir de soulever un caillou et de trouver une pièce en or. Ça, ça veut dire que ce soit en terrestre ou en sous-marin. Moi, j'ai eu la chance de le faire en sous-marin parce que ça m'était plus facile. Puis on a une région qui est plus riche en archéologie.
Voilà, alors ça, c'est sous-marin,
en terrestre. Il faut voir les choses. On a une région qui est très très pauvre, au niveau de l'implantation terrestre. On n'a pas de grandes villes qui se sont implantées comme dans le centre de la France. On était quand même la mer, ça apportait tout le temps des problèmes, des invasions. Donc les gens se sont repliés sur l'arrière-pays qui était beaucoup plus riche. On vivait mieux d'un rapport avec la terre qu'un rapport avec la mer. Le rapport avec la mer, c'était une catastrophe. Les gens, ils crevaient la faim. On les forçait pratiquement à venir habiter sur la bande côtière. Mais en gagnant leur vie avec la pêche, ça suffisait pas. Moi, comme exemple, moi, quand je vois mon grand-père, il crevait la faim. Il avait 10 enfants. Vivre avec ça, c'était pas possible. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un superbe métier qui m'a fait rencontrer des gens. Et à partir de là, donc, j'ai monté une école d'archéologie. Et je trouvais que c'était beaucoup plus passionnant, que d'étudier un objet une fois qu'il est sorti de l'eau, plutôt que de le poser sur une vitrine. Ça marche, puisque bon, on a des demandes un peu partout d'exposition. On est en train de voir quel projet favoriser plus qu'un autre.
Alors voilà. Vous avez dit que j'ai fait des études d'archéologie, vous avez donc indépendamment du fait de faire de la plongée, fait des études, il faut quand même savoir, non?
Voilà, il faut apprendre. Moi, ouais. J'ai eu la chance quand même de en étant, disons, par la suite directeur de fouilles, on m'a mis le pied à l'étrier, j'étais un peu pris, aidé par le ministère de la Culture. Il y a quand même des organismes qui font que, bon, ils sont là pour nous aider. Les choses se sont beaucoup plus ouvertes maintenant. C'est pas réservé qu'à des professionnels à 100% de l'archéologie. Tout le monde a besoin de travailler avec tout le monde. Les gens qui ont compris ça, bon, mais les choses les avancent. Et on est une région où il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent en archéologie sous-marine. On est pratiquement les seuls, et on est pratiquement les seuls à ouvrir les portes à des gens de l'extérieur. Il suffit qu'ils aient un bon diplôme de plongée. Et après la formation, nous on l'a fait pour que les gens soient le plus rapidement possible opérationnels.
Alors vous avez, la semaine dernière, nous avons évoqué Cannes, et vous avez dit dans cette émission que Cannes, c'était formidable, qu'il y avait énormément de choses, que vous aviez plongé à Cannes. Qu'est-ce que vous avez trouvé?
Alors je vais vous dire, c'est que je vous prends un exemple, c'est le site lui-même qui est particulièrement intéressant. Je pense que jusqu'à Marseille, il y a deux sites qui sont comme ça. Vous avez les îles de Lérins, c'est la rade de Villefranche. La rade de Villefranche, pas d'implantation terrestre, pratiquement à part la citadelle, mais surtout un très très bel abri pour les flottes. Toutes les flottes qui passaient par là venaient s'abriter à Villefranche quand il y avait des gros coups d'est et le vent dominant à cette époque-là. Et par la suite, l'étape suivante, c'était Cannes. Voilà, les gros bâtiments pouvaient tourner à Cannes. Il y avait un coup de Mistral qui se levait, on se mettait à l'abri. Et voilà, ils pouvaient tourner autour des îles et trouver des abris pour les bâtiments. Évidemment, il n'y avait pas de port. Donc c'était plutôt des déchargements un petit peu sauvages qui étaient faits. C'était pas des grands ports commerciaux. C'est ça qu'il faut. Le seul port, c'était Marseille. Voilà, donc nous, c'était plutôt des escales maritimes.
Mais alors, vous dites, ils se mettaient à l'abri, mais quelque chose me vient tout d'un coup. Pour qu'il y ait archéologie sous-marine, il faut que le bateau soit au fond de l'eau, il faut qu'il y ait une naufrage,
non pas, ou pas, une voilà. énormité. Ben, c'est que pendant des années, on s'est imaginé que l'archéologie, ce n'était que des épaves. Alors, c'est vrai que d'étudier une épave, une coque entière avec tout son mobilier à l'intérieur, c'est magnifique, mais ça devient de plus en plus rarissime, ou alors il faut atteindre de grandes profondeurs. Par contre, petit à petit, on s'aperçoit qu'en étudiant les lieux de mouillage, ben, on arrive à sortir du mobilier, et du mobilier qui est intéressant, parce qu'on arrive à avoir des couches, tout ce mobilier qui s'est mélangé, un matériel antique, tout ça. Et donc, en l'étudiant, on arrive à voir toute la richesse des mouillages. Et c'est bien pour ça que bien souvent, on s'imagine, oui, mais la pièce, elle est entière, la valeur. Oui, mais si vous en trouvez une qui est cassée avec une petite gravure qui est faite dessus par le marin pour pouvoir personnaliser sa pièce, c'est encore beaucoup plus enrichissant. Et ça, c'est l'avantage de l'archéologie sous-marine.
Mais le bateau, il a sombré quand il était au mouillage.
Pas systématiquement. Et justement, nous, on est arrivé à trouver des bâtiments parce qu'on était inventeur de pas mal d'épaves. On n'a pas retrouvé la coque parce que le bateau s'est abîmé dans les rochers. Alors, avec 2500 ans, il ne reste plus rien que quelques boîtes de débris fort coincé dans la roche.
Alors on va écouter un petit peu de musique. On va écouter, c'est banal mais c'est toujours magnifique, on va écouter Le Grand Bleu, on peut pas... Ça vous fait rêver, non?
Ouais, c'est incontournable.
Incontournable.
Une émission aquatique cette semaine avec Nicole Sabac dans Amusez-vous, sous la mer, un musée.
Subaquatique même, non? C'est comme ça qu'on dit sous l'eau?
Tout à
subaquatique.
Fait.
Hélène Quénaud, vous êtes également à côté de nous, vous étiez avec nous la semaine dernière. Vous vouliez nous dire quelques mots sur des fouilles sous-marines qui débutent à l'île Sainte-Marguerite, c'est
voilà,
ça?
Voilà, en fait, c'est des fouilles sous-marines qui ont une histoire, hein, puisqu'en fait l'Hérault, c'est l'ancien nom de l'île Sainte-Marguerite, c'était une station maritime bien connue des navigateurs. Et effectivement, sur toutes les cartes marines qu'on peut découvrir dans l'ouvrage du musée Le Fort Royal de Sainte-Marguerite au XVIIe, que vous pouvez encore vous procurer au musée de la mer, effectivement, évoque toutes ces cartes marines et puis raconte un petit peu, effectivement, toutes les histoires de plongée qui a eu lieu. Hein. Donc, récemment, en 1971, on a découvert, au lieu-dit la Tradelière, c'est comme ça qu'on a appelé l'épave, un champ d'amphores dont certaines étaient plantées bien droites et bien rangées dans le fond, ensablées seulement sur un cinquième de leur hauteur. D'autres étaient couchées sur le sable. Et des milliers de noisettes qui recouvraient le gisement. On imagine la surprise et l'émoi des plongeurs qui ont découvert cette coque. On a découvert aussi plein d'autres choses. Donc on sait qu'il y a des épaves antiques qui jouent tout autour de l'île. Et comme disait M. Dullière, je crois qu'il y a encore énormément de découvertes à faire. On a tiré aussi, on le sait, un canon qu'on a appelé l'Inconnu, un très très beau canon d'artillerie, hein, daté de 1915, qui trône depuis l'année 2002 au pied du Fort Royal. Bon, ça a été découvert par Pierre Gabriel et Henri Mielou en 95, par 41 mètres de profondeur au nord de l'île. Donc on sait qu'effectivement, il y a énormément de choses encore qu'on peut découvrir. Je citerai aussi une effigie d'Astarté, une déesse phénicienne de la fécondité, qui a été découverte par le docteur Donadieu en 49, effectivement, autour du Nantes. Voilà, donc on a encore plein de choses comme ça qu'on peut découvrir qui sont très, très merveilleuses parce que bon, c'est toute une histoire qui revit effectivement au fond de la mer.
Et bien, comment ça se passe? Vous savez, par exemple, ou alors c'est la surprise, ou alors vous savez qu'à cet endroit-là, vraisemblablement, il y a quelque chose. Quand vous plongez, vous savez où vous allez?
Ben, disons que nous, quand on le fait dans le cadre officiel, on sait plus ou moins, on a demandé une autorisation sur un site qui peut rapporter des informations. Donc, il y a, je dis pas trop la surprise, parce que quand on trouve des œuvres d'art, ça c'est rarissime. Mais disons qu'on est sur des sites intéressants. On ne demande pas une autorisation pour partir dans le bleu comme ça. C'est impossible. On perdrait trop de temps, trop d'argent. Voilà, il faut partir sur des profondeurs raisonnables et en sachant que ce qu'on va pouvoir récolter comme information apporte quelque chose à l'histoire de Cannes.
Alors on parle de la mer, mais il faut quand même juste un mot parler d'un fleuve. On ne plonge pas que dans les mers et on a tous entendu parler il y a 1 an, 2 ans, 3 ans de cette découverte dans le Rhône, d'une tête, d'un buste de César. C'est formidable. On a beaucoup trouvé de choses dans les fleuves comme ça.
Alors là, vous allez avoir une grande surprise parce que c'est la première fois que tous les objets d'art qui ont été trouvés dans le Rhône vont être présentés au grand public pour le cinquantenaire du ministère de la Culture. Donc à partir du 20 octobre, je crois que c'est 25 octobre, l'inauguration officielle, il y a tous ces objets pour... Donc c'est le musée d'Arles. Voilà. Il ne faut pas oublier que Arles, c'est quand même le créateur Jules César. Donc c'était un petit peu le bienfaiteur de la ville. Bon, c'est exceptionnel. Ça attire vraiment l'archéologie vers le haut. Mais il ne faut pas oublier non plus que toutes les petites personnes qui sont des chantiers terrestres ou sous-marins, en trouvant le petit essor, apportent aussi... voilà. Mais c'est vrai que ce genre de découverte, ça attire l'archéologie vers le haut et ça donne des moyens à la recherche.
Oui, ça fait... Ça, on en parle, ça suscite des vocations. Mmh. On peut aussi évoquer Jean-Yves Empereur et Alexandrie, non?
Tout à fait. Mais il y a une bataille navale napoléonienne qui a été perdue dans le coin, donc les Français, ils ont oublié.
Voilà. Et Cousteau?
Cousteau, je crois que... Alors, je vais vous dire, parce que moi, j'ai eu la chance, quand j'étais tout jeune photographe à l'agence de Monaco, de le rencontrer en tant que directeur du musée. C'est quand même quelqu'un qui m'a particulièrement impressionné. Et si les gens sont honnêtes, ils vous diront que s'ils ont mis la tête sous l'eau, c'est grâce à lui. Un jour, il m'a raconté, il me disait que j'étais précurseur en tout. Et c'est vrai que quand on regarde ce qu'ils ont fait, avec bien ou mal, avec quelques erreurs pour l'époque, mais tout est pardonnable, ils ont été les précurseurs en tout et dans le monde entier. Ça reste toujours une légende vivante. Moi, ex-vivante légende. Mais ça continue quand même sans épopée.
Ah, merci, vous nous avez fait rêver. Alors si nos auditeurs sont dans leur voiture chez eux, ils écoutent ça, ça leur donne envie. Est-ce qu'ils peuvent... Vous êtes à l'agence de Menton de Nice Matin,
c'est ça ? Agence de Menton, oui. Sinon, ils peuvent me contacter par mail, donc à eduliere@nicematin.fr.
Voilà, je trouve que c'est formidable. Et pour un jeune, c'est quelque chose de prometteur, non ?
Oui, mais il faut voir surtout les générations qui suivent derrière, en plus.
Merci Hélène Quesneau d'avoir parlé de Cannes. Merci Eric. Et puis peut-être on va susciter des vocations.
Oui, bien sûr.
Voilà. À bientôt. Merci.
Au revoir.